Radio Kawa présente Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Thème de l'émission.
Cette émission sera consacrée au jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild, développé et publié par Nintendo sur Wii U et Switch, et sorti en 2017. Il sera comparé aux autres jeux de la saga, notamment sous l'angle de la conduite de l'histoire et de la dénomination des lieux et des personnages du jeu.
Première partie, présentation et problématique.
Des jeux sortis en 2017, Breath of the Wild fut sans doute le plus marquant. Au-delà des nombreuses récompenses qu'il reçut, de l'innovation qu'il peut représenter à l'aune de la série entière, et des avancées particulières qu'il propose quant au genre dit de l'open world, il est quelque chose qui m'aura particulièrement intrigué au long de son parcours. La façon dont il prend un malin plaisir à nommer, dénommer, surnommer ses lieux, ses moments et ses personnages. Cela m'a intrigué pour plusieurs raisons. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas là d'une question relative à la chronologie du jeu, à son emplacement au sein d'une soi-disante timeline qui n'est jamais, pour Zelda et nous le savons, qu'une tentative maladroite de relier entre des jeux et des événements, ne partageant que de lointains points communs. Ceux qui chercheraient à contredire l'emplacement officiel de cet épisode vis-à-vis des autres n'auraient aucun problème à trouver des paradoxes, des contradictions, des ambivalences. En revanche, j'ai été surpris de voir de quelle façon le jeu, finalement, construit sa narration plutôt en creux et en allusion, et non pas en redites et en reprises, comme la saga en avait pourtant, et jusque-là, l'habitude. Il est ainsi des jeux paronomastiques, des à peu près, qui sont non seulement cohérents avec une évolution linguistique traditionnelle, qui déforme le temps allant les noms en retranchant des syllabes, en ajoutant, en faisant les preuves de ce que l'on appelle encore les métaplasmes. On ne trouvera donc point, et tels quels, les noms des déesses introduites jadis dans Ocarina of Time, mais Laneru, Fironé, Dinrea, comme si le sens véritable de cette cosmogonie s'était effumé au cours du temps. Tel lac s'appelle Mido, avec un H, en souvenir d'un ancien Kokiri. Les montagnes, les cours d'eau, les plaines ont tous ce quelque chose d'étrange entre le connu d'un ancien personnage ou d'une ancienne place forte et l'étrange d'un éloignement inédit qui laisse libre cours aux théories étymologiques les plus fortes. Mais il est également, et cela est aussi attendu dans ce cas de figure, des constantes, des repérages fixés qui permettent tant aux anciens qu'aux nouveaux de se retrouver. Le village Cocorico demeure, même si son style est étrangement japonisant. La montagne de la mort ne trahit point sa promesse funeste. Le désert Gerudo est encore habité par cette fière tribu d'Amazones. La princesse se nomme encore Zelda, comment justifier autrement le premier titre du jeu? Le méchant, tout fléau est-il, est encore Ganon. Et, enfin, le héros se nomme Link. C'est ici néanmoins que la surprise fut pour moi la plus grande. Link, dès le tout premier épisode sur NES, fut le nom de cet elfe, ou de cet Illien, que l'on dirigeait et qui finissait par arpenter collines et souterrains pour sauver le royaume. On le trouvait même dans le titre de certains épisodes, Link's Awakening tout d'abord, Adventure of Link bien sûr, peut-être par le biais d'un jeu de mots, dans A Link to the Past. Mais en réalité, et si ce n'était dans ces différents indices et dans le manuel du jeu, ce n'était pas le nom que nous offrait le jeu lui-même, une fois une partie initiée. Ce nom, c'était davantage celui du fichier de sauvegarde de notre partie. Ainsi, et pendant longtemps, ce n'était pas Link qui tuait Ganon, ou le cauchemar, ou Onox, ou que sais-je. C'était, pour moi, Mathieu, le nom que je donnais intuitivement à mon fichier de sauvegarde. Partant, que Breath of the Wild entérine, non seulement dans sa documentation, mais également au sein de sa propre économie, le nom de son héros, cela m'aura profondément surpris. Et, interrogeant plus précisément la façon dont cet épisode joue avec ses codes linguistiques, il me semblait que cela créait une tension avec l'esprit du jeu. Aussi, nous poserons la problématique de cette émission comme suit. Quelles conséquences a le figement du nom du héros dans Breath of the Wild?
Deuxième partie, projection et rétrojection.
Évidemment, coupons court au pragmatique et donnons l'évidente solution. Si le héros est nommé, et si l'on ne peut changer ce prénom, c'est surtout parce que Breath of the Wild est le premier épisode de la saga à proposer un doublage multilingue. Dans l'impossibilité de moduler de façon convaincante une infinité de dénominations, d'éviter sans doute les vulgarités, il fallait bien nommer le héros pour que les doubleurs ne passent pas leur session d'enregistrement à circonlocuter les choses. Mais au-delà de cette contrainte technique, cela ne peut que rendre étrange l'un des principes fondamentaux de cette saga, l'une des règles édictées par Miyamoto lui-même. La transparence voulue du héros pour permettre une meilleure identification du joueur à celui-ci. Contrairement à Mario, ou à Donkey Kong, ou à Samus Aran, Link a effectivement été pensé, aux origines de cette célèbre saga, comme une sorte d'entité absente, un lac dans lequel le joueur pouvait se mirer sans obstacle aucun. C'était là la raison pour laquelle le jeu ne donnait jamais son nom, quand bien même le trouvait-on dans les notices et sur les boîtes de jeu. C'était la raison pour laquelle il n'avait pas de voix. Tout au plus, ahannait-il de fatigue ou criait-il de douleur, et son mutisme était même souvent moqué par les autres personnages. Il s'agissait de devenir le héros, de se projeter au sein de l'aventure. « Vous êtes le héros », disaient les publicités et les notices du temps. Et être le héros, c'était aussi avoir le pouvoir de le nommer à la façon d'un véritable jeu de rôle, d'un Dungeons & Dragons dont Zelda, évidemment, s'inspire et s'inspirera notablement. Pour saisir néanmoins les implications de ce choix, il convient de le comparer avec son exact opposé, celui d'un héros nommé, parlant et revendiquant, auquel il est certes possible de s'identifier, mais dans lequel il est impossible de se projeter. Nous prendrons l'exemple de Cloud dans Final Fantasy VII, qui est une tarte à la crème du média certes, mais qui permettra de faire des comparaisons intéressantes. Cloud est tout le contraire, narrativement parlant, de Link, et ce quel que soit l'épisode que l'on pourrait prendre en considération. Il a un passé duquel nous savons tout, ou presque, l'intérêt du jeu étant bien de le découvrir progressivement. Il est verbeux, constamment, ne cesse de faire des remarques, d'échafauder des plans, de ressentir de la colère, de la joie ou de la peur. Il est, dans une moindre mesure et par notre truchement, l'acteur de sa propre histoire dans la mesure où nous pouvons choisir, par exemple lors de l'épisode du Golden Saucer et selon nos choix antécédents, celle ou celui nous accompagnant dans la grande roue du parc d'attractions. Tous ces éléments empêchent alors au joueur de se projeter dans Cloud. Tout au plus parlera-t-on d'identification. Afin de faire système cependant, je parlerai ici de rétrojection, dans la mesure où le mouvement de l'identification est contraire à celui de la projection. Il ne s'agit pas d'une direction partant du joueur et allant vers le jeu, mais bien d'une direction allant du jeu vers le joueur, qui juge en retour le personnage et son adéquation avec ses propres valeurs. Mais au-delà de cette nuance, qui aide bien entendu à donner du volume à ses protagonistes, on notera qu'autant la projection que la rétrojection permettent de construire une narration. The Legend of Zelda, quelque itération que nous prenons, raconte une histoire tout comme Final Fantasy VII le fait. On pourra toujours juger de la complexité relative de celle-ci, mais c'est là davantage des questions stylistiques que pratiques. La nuance principale tient davantage en la place que tient le protagoniste dans la narration. Cloud est, ainsi, essentiel à la conduite de l'histoire. C'est son identité particulière, sa relation non seulement avec l'antagoniste principal, Sephiroth, mais également sa personnalité, qui permettent à l'intrigue de se dérouler d'une certaine façon. Link, en revanche, pourrait être remplacé par un quelconque. C'est là toute l'idée de la projection. Et parfois, certains héros putatifs prennent éventuellement sa place, que ce soit son oncle au début de Link to the Past, ou Ergo dans Skyward Sword, et ce même s'ils finiront par passer à l'arrière-plan. Finalement, il aurait pu être remplacé par une force inédite, un bloc vert, un oiseau. S'il accomplissait les mêmes gestes, sédimenté notablement par la progression de la partie, rien ne serait particulièrement perdu au sein de notre aventure. On observera d'ailleurs que, si l'on prend les choses plus précisément, ce n'est pas uniquement Link qui se trouve être en cette position de transparence. Zelda, ne serait-ce, ne tient que par son seul nom, mais pourrait être remplacée, mettons, par un pouvoir magique, une fée ou une épée, sans mettre en péril l'ensemble de l'histoire, nonobstant les épisodes plus récents qui intègrent davantage la princesse dans leur économie, et ce à compter de Ocarina of Time, bien qu'inconstamment. Quant à Ganon, il a souvent été remplacé par d'autres vilains, parfois n'est-il présent qu'en mention. Breath of the Wild va même jusqu'au bout de cette idée, en faisant de Ganon non plus un personnage à proprement parler, mais une force menaçante, indéfinissable, à l'image du Sauron du Seigneur des Anneaux. En balance, cela justifierait ainsi de rétrojecter, si je puis dire, une partie de la dénomination, sur les héros tels Link, mais également sur le royaume d'Hyrule lui-même, qui n'a jamais été aussi clairement nommé que dans ce jeu.
Troisième partie, le nom des choses.
Il y a de cela quelques années, et ce bien que ce texte ait abouti à une récente publication, j'avais écrit une version romancée de A Link to the Past en me servant de tout ce que je pouvais jadis trouver sur sa mythologie. C'était, si je me souviens bien, juste après la sortie de The Wind Waker et avant Twilight Princess. Comme je voulais donner du corps à ma nouvelle, et peut-être donner des détails alors peu connus ou bien entièrement de mon cru, mais cohérents avec l'esprit des jeux, je me plongeais dans les rares sites d'alors, les wikis n'étaient pas encore très usités, et je fus surpris, finalement, de l'austérité nominative de cette saga. Il y avait bien certains lieux de nommer, mais il s'agissait surtout de grands signes lointains, les bois perdus, le temple de l'Est, le lac Ilia. Les ennemis, avant Ocarina of Time, avaient des noms peu connus et peu accessibles, peu inspirés parfois. Les objets étaient plaisamment nommés, sans grande originalité, finalement. Breath of the Wild renverse totalement cette tendance, peu surprenante dans le média tout compte fait, et prend un délicieux plaisir à tout nommer, tout dire, avec une luxuriance de détails. La nouvelle encyclopédie du jeu, qui fait lointainement écho au compendium que l'on peut trouver dans d'autres jeux de rôle, comme Xenoblade Chronicles ou Metroid Prime, est un outil représentatif de cette nouvelle tendance. Mais il y a là, ce me semble, davantage qu'une tendance à l'exhaustivité, ou au rajout d'une énième quête secondaire, tandis que le jeu n'en avait nul besoin. Il me semble surtout qu'au contraire de ses prédécesseurs, Breath of the Wild comprend que l'acte de dénomination n'est pas qu'un geste linguistique. C'est surtout un geste de création. Je ne ferai pas ici de longues dissertations sur le relativisme linguistique ou l'analyse de discours, ni sur la façon dont les mots et les structures influencent, notablement ou imperceptiblement, nos représentations. Je ferai en revanche quelques remarques sur ce geste démiurge dont il convient de mesurer l'importance au sein des œuvres de fiction. S'il n'est en effet nul besoin de nommer un objet pour présider à sa création, l'univers restant indépendant du langage qui le décrit, l'appeler, le détourer par un terme, le crée linguistiquement. Il rentre alors en relation, en résonance, avec l'ensemble des mots existants et, partant, crée de nouvelles connexions influençant son existence pragmatique. Nommer, c'est effectivement classé. Et il suffit de changer le nom d'un objet pour que son point de vue évolue notablement et les comportements en conséquence. On étudie ainsi le langage depuis les origines, mais en l'appelant la grammaire, on le prescrivait plus qu'autre chose. Maintenant qu'il est source de linguistique, il s'établit en science à part entière et, partant, doit se donner une méthode rigoureuse pour respecter la noblesse que le nom lui prête. Il en va alors de même, dans Breath of the Wild, concernant les lieux et les choses. Commençons par ces dernières, les armes, les insectes, les plantes. Le fait de les nommer, de les enregistrer dans une encyclopédie, leur donne une consistance toute particulière qui ne les réduit pas nécessairement à un signe d'inventaire, au fait de pouvoir interagir avec l'objet. Les recettes de cuisine, par exemple, sont des objets d'inventaire, interagissant avec l'environnement, mais on ne peut bizarrement point les enregistrer dans une quelconque encyclopédie. Il me semble alors que ces noms, que ces enregistrements, sont comme l'œuvre d'un botaniste, d'un encyclopédiste particulièrement scrupuleux, et l'univers, dès lors, de se diviser sémiotiquement en deux ensembles immédiatement séparés. Les plantes nommées et potentiellement étudiées, et celles qui n'ont peu cette chance et qui, partant, font partie d'une sorte d'arrière-plan avec lesquels on peut peut-être interagir, mais qui ne sont d'aucune utilité pour notre partie. Les arbres sans doute de faire partie de cette catégorie. Malgré leur belle variété, entre les chênes, les palmiers et les cocotiers, impossible de leur trouver une place dans notre encyclopédie. La topographie semble suivre la même tendance. Lorsqu'est activée une tour, le nœud des zones les plus denses, ou des plus importantes, narrativement parlant, apparaît immédiatement dans le sous-écran dédié. Mais lors de nos explorations successives, d'autres zones, des gorges, des plaines, des lacs et des tourbières, apparaissent également, et ce souvent gratuitement. Rares sont les panneaux indicateurs y menant, ceux-ci ne pointant généralement que vers des endroits déjà apparus grâce aux tours de vigie. Les quêtes principales ne s'en préoccupent guère. Seules quelques quêtes annexes proposent de se rendre à tel ou tel endroit pour faire telle chose. Il est cependant, comme dans l'ensemble du jeu par ailleurs, une grande gratuité de ces jeux de dénomination. Cette gratuité, ce luxe, on peut volontiers le mettre en relation avec l'histoire principale du jeu et la façon dont il considère les principaux événements de son économie. On notera ainsi qu'au-delà des héros, du roi d'Hyrule et de quelques PNJ à l'importance discutable, mais remarqués tels Impa ou Sidon, tous les figurants sont, en réalité, nommés au sein de la partie et ce quand bien même n'interviendrait-il jamais au sein d'une quête ou d'une mission spécifique. Leur nom leur permet alors de rentrer en relation les uns avec les autres, comme nous le notions plus haut avec les plantes. En un mot, cela fait système, et cela nous conduit finalement à notre problématique première.
Quatrième partie, l'objet de nos envies.
Donner un nom à Link, c'est-à-dire un nom figé, fixé, cohérent à ce personnage, c'est également le faire entrer au sein de l'ensemble des personnages du jeu. C'est alors lui donner une toute autre importance que jadis. Alors que dans un jeu comme, mettons, Ocarina of Time, seuls les personnages de tout premier plan étaient dénommés, ce qui asseyait leur importance, Link ne se distingue plus ici au regard du reste. Même si l'importance d'un personnage était indexée sur la taille de son patronyme, Link serait étrangement désavantagé au regard, ne serait-ce, que du roi Roam Bosphoramus Hyrule, dont le nom tripartite dénote sa longue lignée. Les ramifications propres à ce mécanisme s'étendent du côté de l'histoire, en revitalisant la quête des souvenirs que le joueur est invité à suivre pour en apprendre davantage sur l'intrigue, Link n'étant pas un héros immortel mais un chevalier choisi par les circonstances et l'épreuve, magistrale je dois dire, de l'épée de légende qui doit nouvellement juger si Link, sorti de son soleil centenaire, est encore digne de la manipuler, est révélateur de cela. Autrement dit, nous passons d'une étape de projection à une étape de rétrojection, et ce même si les indices initiaux de cette transparence demeurent au cours du jeu. Link demeurera cet individu mutique, que l'on connaît depuis le commencement, particularité qui détonne au regard du verbiage incessant des cinématiques, de l'encyclopédie, des PNJ même qui chantonnent ou soliloquent lorsque vous passez à côté d'eux, sans nécessairement engager une conversation. Mais ce mutisme rentre alors en tension avec la projection observée ailleurs. Si Link est silencieux, ce n'est pas pour mieux s'identifier à lui. c'est qu'il comprend les dégâts qu'a provoqué son échec de jadis et qu'il est tout à sa quête. Il y a comme une contamination générale du propos ici, comme si le figement du nom du héros provoquait, en cascade, une impossibilité de se projeter totalement en lui, uniquement de s'identifier. Le système sémiotique, partant, s'irradie ailleurs. Link, personnage à part entière, n'est plus un être exceptionnel dans ce monde. Il s'agit d'un Ilien comme un autre, certes destiné, finalement, à libérer la contrée de sa menace, événement que rien ne prédisposait nécessairement à accomplir. L'on retrouverait presque là une idée propre au Seigneur des Anneaux, une fois encore, à Willow, qui lui emprunte beaucoup, évidemment. Le héros malgré lui, que The Legend of Zelda n'avait jamais parfaitement exploré malgré son appétence, évidente, avec ses œuvres littéraires ou cinématographiques. Nommer, c'est dénommer. C'est immédiatement classer, organiser, donner une limite aux possibilités de l'objet. Nommer Link, c'est alors le ranger dans une certaine classe d'objets, dont nous avons défini les contours. Mais nommer et classer, c'est nécessairement exclure, c'est choisir l'endroit où l'objet ne tombera point. Si l'on supprime alors tout ce qui a un nom dans cet épisode, tout ce qui est nommé, tout ce qui peut être photographié et archivé, que reste-t-il? Il reste finalement l'essentiel, et ce qui donne le nom à cet épisode. The Wild, condensation de concepts que l'on doit traduire différemment en français pour espérer atteindre toutes les connotations. C'est tout d'abord le sauvage, y compris du point de vue linguistique, ce qui ne répond à aucune logique, à aucun système, qui a sa liberté propre, à l'image de ces dragons géants, imperméables à votre présence, tout au plus réagissent-ils à nos flèches. C'est ensuite l'insensé, dans la continuité de ce premier élément, ce qui permet aux loups et aux moutons de cohabiter et aux sangliers de charger ce qui s'annonce pourtant être le héros légendaire. C'est le farfelu et l'étrange, ce qui sort des sentiers battus, le mystère présent en mode mineur ou majeur, qui remet en question tout ce que nous savions précédemment. C'est enfin le primitif, le naïf étymologique, la nature reprenant ses droits sur des ruines récentes ou plus anciennes, l'herbe qui brise la pierre, l'eau qui abat le barrage. Il reste tout ce qui ne peut être parfaitement nommé, mais qui se ressent ou se pressent, tout ce qui peut escalader sans jamais être domestiqué. Il reste finalement le cœur de notre partie. C'est aussi en cela que le nom de Link est si important. Il indique que ce héros est en dehors de cet univers, qui ne lui appartient pas totalement. La construction de notre partie sera donc excentrique, si l'on peut dire. Si, jadis, tout l'univers d'un jeu Zelda, comme la plupart des jeux vidéo du reste, fait du protagoniste l'acteur primordial des mécanismes proposés, Breath of the Wild partage ces mécanismes avec l'ensemble des personnages et protagonistes, les ennemis saisissant les armes et rochers à leur portée, les PNJ réagissant nerveusement à une épée défroyée, nous placent, initialement tout du moins, dans une position de faiblesse que seuls quelques rares jeux, la série des Dark Souls notamment, mettent en avant. Pour ainsi dire, le nommé, c'est le connu, l'habituel, ce qui peut être observé et catégorisé. L'innommé, c'est le sauvage et le farfelu, ce qui sera à jamais en dehors de notre compréhension et qui nous entoure, pourtant, de son omniprésence.
Cinquième partie, de l'aventure à la fiction.
Ce que propose Breath of the Wild n'est guère novateur à dire vrai, mais est révélateur d'une tendance de fond que l'on peut observer dans le jeu vidéo depuis quelques années, et que j'associerai ici à l'évolution de l'aventure à la fiction. Une fois encore, une comparaison avec Final Fantasy, avec l'ensemble de sa saga, le fera mieux comprendre. Dans le tout premier épisode de ce qui deviendra, finalement, la grande licence que nous connaissons aujourd'hui, les quatre héros choisis par le joueur sont parfaitement anonymes. on les dit réceptacles de grande puissance. Mais si ce n'est leur classe, ils n'auront en réalité aucun autre attribut. Dès le second épisode cependant, mais il faudra sans doute attendre la Super Famicom pour que la chose soit actée, les protagonistes ont à présent chacun un nom, une histoire, un passé, un objectif. Le média a évolué de l'aventure, à proprement parler, soit de la quête concentrée vers son objectif et le plaisir de son parcours, vers la fiction, soit la conduite d'une certaine histoire, avec une certaine dimension, par le biais d'un certain médium, qu'est le jeu vidéo, avec toute l'interactivité que nous lui connaissons. Castlevania, autre série fleuve, a suivi la même tendance. Et The Legend of Zelda fait de même, notamment concernant sa topographie, les lieux et centres d'intérêt, nous l'indiquions, étant de mieux en mieux nommés au fur des épisodes. On ne saurait cependant, et comme je l'avais annoncé précédemment, associer cette tendance à une plus grande narrativité, ou à une narration à proprement parler. Il s'agit davantage d'une optique de catégorisation. Cela justifie dès lors les différentes timelines que ces séries ont développées récemment, alors qu'elles ne s'en préoccupaient guère jusqu'à présent. Nommer, c'est organiser un espace, un objet, au regard des autres, et ce y compris temporellement, relativement, les uns au regard des autres. Si nous prenons au contraire une grande série de Nintendo, Metroid, on observera que dès le commencement, les héros, ennemis, lieux, étaient bel et bien dénommés, et permettaient ainsi très rapidement de créer une chronologie, souvent prospective, et non rétrospective. C'était, chez Nintendo tout du moins, une exception notable. Et on observera enfin que chez Mario, plus les niveaux sont nommés, plus la cohérence fictionnelle se fait forte, comme on peut le voir dans Super Mario 64, Sunshine ou Odyssey, et comme on ne peut en revanche l'apprécier dans Super Mario 3D World, ce qui confirmerait le système que nous avons mis en place. À l'opposé du spectre, on trouve aujourd'hui des jeux davantage minimalistes, principalement issus de la scène indépendante, qui restent attachés à cette composante aventureuse des commencements et qui, partant, assèchent notablement leur univers fictionnel. Plus ou moins récemment, on pourra donner Oxygen Not Included ou 1001 Spikes qui s'amusent à ne rien offrir pour colorer leur fiction et s'orientent partant sur une direction davantage aventurière, vidéoludique, privilégiant le médium au détriment d'une histoire. Car il nous semble bien qu'ici, la rupture est franche et la modulation compromise. Choisir la fiction, nommer ses héros, ses royaumes, ses entas et protagonistes, c'est s'éloigner du primitif, de ce qui peut être catégorisé et ce qui doit donc être découvert, ce qui peut surprendre et ne peut être parfaitement compris. Partant, et ce sera là notre dernière réflexion, si rupture dans le jeu vidéo il y a aujourd'hui, ce ne serait point l'opposition entre l'académique et l'indépendant, entre l'artistique et le commercial. Plutôt, ce serait entre le connu et l'inconnu, entre celui qui veut tout nommer, tout présenter, tout offrir, et celui qui veut tout garder pour lui. Et tant qu'il sera une opposition entre ces deux pôles, nous autres joueurs, nous serons les gagnants de ce jeu linguistique, aux conséquences plus grandes qu'il n'y semble, de prime abord.
Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa.
Le 21e siècle. C'est parce que Mark et William avaient eu l'idée de développer des jeux ensemble que les dieux imaginèrent cette terrible vengeance.
Quiconque ose créer un logo avant la première ligne de code doit être puni. Vous serez condamné à animer un podcast sur le développement de jeux vidéo, avec chaque mois un nouvel invité. Telle est notre volonté.
La Dev Team, c'est une fois par mois, et c'est sur Radio Kawa.
Vivant, vous êtes vivant.